Dans la lettre d'invitation, il était précisé que nous lirions les versets 55 à 75 du chapitre 26 de l'évangile de Matthieu. Mais pour étudier vraiment la personne de Pierre et puis tout ce qui tourne autour, nous lirons plutôt divers passages que je vais lire maintenant et qui sont étudiés. Petite précision, nous ne lirons pas les passages des évangiles des autres évangiles qui présentent des scènes similaires, mais les frères pourront s'y rapporter pour l'étude. Donc nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, premièrement les versets 31 à 35. Alors Jésus leur dit : Vous serez tous scandalisés en moi cette nuit, car il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que j'aurai été ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. Et Pierre répondant lui dit, si tous étaient scandalisés en toi, moi je ne serais jamais scandalisé en toi. Jésus lui dit, en vérité je te dis que cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. Pierre lui dit, quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples dirent la même chose. Nous lisons maintenant la fin du verset 56. Alors tous les disciples le laissèrent et s'enfuirent. Et ceux qui s'étaient saisis de Jésus l'amenèrent à Caïphe, le souverain sacrificateur, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Et Pierre le suivait de loin jusqu'au palais du souverain sacrificateur. Et étant entré, il s'assit avec les huissiers pour voir la fin. Et nous lisons enfin les versets 69 à 75. Or Pierre était assis dehors dans la cour, et une servante vint et lui disant à lui, disant, « Et toi, tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Et il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu dis. » Et une autre servante le vit, comme il était sorti dans le vestibule, et a dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci aussi était avec Jésus le Nazaréen. » Et il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Et un peu après, ceux qui se trouvaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi, tu es aussi de ces gens-là, car aussi ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti dehors, il pleura amèrement. Voilà.
Simplement un mot d'introduction pour dire que pourquoi on a pensé à choisir ce sujet d'étude. Une des raisons, sans doute, c'est que il y a très peu de récits en dehors de la croix et de la résurrection du Seigneur. Il y a très peu de récits, à ma connaissance, qui sont donnés avec détail dans les quatre évangiles. Même des récits qu'on connaît très bien, qu'on étudie souvent. L'Esprit de Dieu les a rapportés parfois dans deux, trois évangiles, mais les récits qui sont donnés dans les quatre évangiles successivement sont peu courts. Alors il y a certainement quelque chose qui déjà nous parlait en disant toute la parole est évidemment importante. Et parfois il y a un seul verset dans la parole et ce verset est précieux, mais il y a quand même une intention de l'Esprit de donner ces quatre récits qui sont de cette scène qui doit nous toucher et nous dire mais il y a vraiment quelque chose. On ne peut pas passer à côté de ce récit-là, d'une certaine façon, puisque chaque évangile le donne. Et puis, en même temps, ce que je voulais dire également, c'est que ces quatre récits donnent des détails différents. Et je sais qu'il y a des longues études qui ont été faites parfois pour essayer de réconcilier ces récits en faisant des hypothèses pour savoir qui est-ce que c'est la même personne qui parle, alors peut-être que ça veut dire. Et on peut perdre, je crois, toute une matinée à chercher à réconcilier dans les détails tous ces récits, dans la chronologie, dans qui est la personne qui s'adresse à Pierre, etc. Et finalement, ce n'est pas ça qui est important. La parole de Dieu est juste, est parfaitement juste en ce qu'elle nous donne. On n'a pas à chercher à réconcilier des récits de la parole entre eux. Mais par contre, dans chacun des, Félix l'a dit, il y a donc dans chacun des passages qui donnent ce récit, bien, il y a des instructions, il y a des détails qui sont donnés, qui peuvent parler à nos cœurs, dans chacun de ces récits, de la façon dont l'Esprit de Dieu a voulu nous le redonner. Et ce qui est important, c'est ce que chacun de nous peut garder dans son cœur à travers ces détails qui sont donnés. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, veut me dire à travers ces détails dans ces quatre récits qui nous sont donnés.
À travers ces détails qui viennent de nous être rapportés, nous ne devons pas oublier, en lisant cette parole de Dieu, par rapport à ce cher serviteur qu'a été Pierre, son attachement au Seigneur Jésus. On peut dire qu'il était bouillant pour son maître, n'avait pas la connaissance que nous avons, nous, aujourd'hui. Les choses sont écrites pour notre instruction, parce que nous sommes beaucoup plus responsables que Pierre. Il nous faut avoir devant les yeux, en lisant, on ose à peine le dire, son reniement. Il aimait son maître de tout son cœur. Il était bouillant pour son maître. Lisant ces passages, retenons ce fait. Il est très important. L'amour pour Christ.
Je voudrais dire à peu près la même chose que Joël. Il ne faut surtout pas penser que Pierre est tiède. Pierre, c'est quelqu'un qui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est lui qui a marché sur l'eau pour rejoindre le Seigneur, eh bien, Pierre est quand même tombé. Si Pierre est tombé, ça peut nous arriver aussi. Et donc, la parole nous dit que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Alors, comment ne pas tomber? Eh bien, il faut être sur nos gardes et être vigilant et prier pour que le Seigneur nous garde de tout faux pas. Et Pierre, eh bien, il avait ses défauts, bien sûr, comme nous tous, mais on se sent très, très concerné parce que c'était pas n'importe qui. C'était un disciple qui aimait énormément le Seigneur.
On vient de l'entendre de manière très appuyée par deux frères, donc... Pierre aimait le Seigneur de tout son cœur. Alors où était le problème? Il a des leçons à nous donner quant à son attachement au Seigneur. Il a des leçons à nous donner quant à son engagement avec le Seigneur. Mais alors où est le problème? Le problème de Pierre, c'est qu'il ne se connaissait pas. Il faisait fond sur quelque chose qui peut nous être aussi en piège, c'est notre chair, l'homme naturel. Sur quoi est basée ma vie chrétienne? Pose la question à chacun d'entre nous. Il la chair est en nous, la chair religieuse aussi est en nous, et Pierre avait besoin d'apprendre à se connaître. C'est une vérité, comme tout à l'heure Rémi nous l'a dit, qui est très appuyée dans l'exemple de Pierre, mais qu'on trouve dans toute la parole de Dieu. Dieu a condamné le péché dans la chair lorsqu'il a frappé son fils. Et là, Dieu a dit exactement ce qu'il pensait de vous et moi quand le Seigneur Jésus a été abandonné. Seulement, peut-être Pierre voyait ce que nous pouvons voir aussi, un certain transformisme de... La vie chrétienne, ce n'est pas de faire attention à nos défauts et essayer de mettre nos qualités en avant. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'être d'abord, c'est notre premier point de communion avec Dieu, c'est d'être d'accord avec Dieu sur ce que nous sommes en Adam. Et quand nous sommes d'accord avec Dieu sur ce que nous sommes en Adam, c'est-à-dire que Dieu ne peut rien faire du plus sympathique d'entre nous, et quand même il est sympa, Pierre. Alors Dieu peut nous entraîner vers autre chose. Pierre l'a appris douloureusement. Moïse l'avait appris aussi, et on l'évoquait ce matin avec des croyants. Psaume 90, il dit « J'ai dû aller jusqu'à 80 ans pour comprendre que l'homme peine et vanité. » N'attendons pas 80 ans pour être d'accord avec Dieu sur ce que nous sommes. Que nous puissions l'apprendre le plus tôt possible. Personne ne peut ressusciter, personne ne peut vivre en ressuscité s'il n'est pas d'abord mort. Vous ne pouvez pas ressusciter si vous n'êtes pas mort. Et si, et c'est le désir de nous tous, n'est-ce pas, et les jeunes, et nous tous, c'est de vivre cette vie de résurrection. Ah ben, alors dans ce cas-là, il faut d'abord qu'on meure. Et Pierre devait l'apprendre douloureusement. C'est difficile. C'est très difficile d'apprendre en moi, c'est-à-dire en ma chair, ce que Pierre apprend, il n'habite aucun bien.
Et si ça a été douloureux pour Pierre, ça le sera aussi pour nous. Il ne faut pas qu'on croit qu'on pourra passer par-dessus notre chair sans pouvoir l'écraser, sans pouvoir la mettre dans la mort, là où elle doit y être. Pierre, il doit apprendre une leçon que d'autres l'ont apprise d'une autre manière, mais Pierre doit l'apprendre de cette manière-là, et c'est pour nous enseigner à nous quelque chose. Notre chair, elle n'est pas meilleure que celle de Pierre, ni d'aucun autre des croyants. Cette chair, il faut la tenir dans la mort. Ce n'est pas parce qu'on est des croyants que notre chair, elle est vaincue. Au contraire, elle se manifeste chaque jour. Chaque jour, il y a un combat fort contre elle. On veut étudier justement le reniement de Pierre. Mais le reniement de Pierre, c'est presque comme un point zéro d'où il faut remonter. Mais pour arriver à ce point zéro, là où il peut dire, comme nous l'avons lu, et étant sorti dehors, il pleura amèrement. Pour arriver à ce point zéro, il était, Pierre, à un point bien élevé. Il se croyait, et nous croyons bien souvent, bien supérieurs aux autres. Et on fait des comparaisons. Et regardez ce que Félix vient de commencer à lire. Il a lu ce paragraphe du verset 31 au 35. Et je voudrais juste mettre le doigt sur le verset 33. Et Pierre répondant lui dit, si tous étaient scandalisés, moi je ne serai jamais scandalisé. Si les autres font le mal, moi surtout pas. Si les autres pourraient arriver à te renier, moi surtout pas. Première erreur, se considérer soi-même capable de faire quelque chose pour le Seigneur ou pour quiconque mieux que les autres. On peut dire une confiance en soi-même excessive qui amène non pas seulement à m'élever moi-même, mais amène à mépriser les autres. Et les autres, c'est mes frères. Les autres, c'est ceux pour qui Christ est mort. Au verset 40, ça n'a pas été lu. On voit une deuxième marche descendante. Et il vient vers les disciples et il les trouve dormant et il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez. » Là, il y a deux pas. Le premier, c'est s'endormir. Pourtant, c'est ce que le Seigneur leur avait demandé. Et deuxième chose, encore une marche plus bas, ils ne prient pas. Alors, question pour nous, comment, pour le premier point, nous considérons les autres, comment nous nous considérons nous? Est-ce que nous dormons? Est-ce que nous sommes de ceux qui veillent en prière? Juste donner un petit peu ces différentes marches descendantes avant d'arriver à ce reniement de Pierre. Verset 51. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus, étendant la main, tira son épée et frappa l'esclave du souverain sacrificateur, lui emportant l'oreille. Il y a une difficulté, un ennemi qui se présente. Comment on répond? Et la chair est prompte, veut tout de suite être là. Et franchement, je me reconnais dans ce Pierre. J'aurais aimé être dans du temps des croisades pour tirer l'épée et défendre le christianisme et défendre plein d'autres. Et est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que la chair doit se manifester ou il faut la soumettre à la volonté de Dieu, à la volonté du Seigneur? Même si on veut le faire, elle se révélera. On veut avoir des très bonnes intentions pour notre chair, avec notre chair, mais surtout pas la mettre de côté. On veut même monter sur cette chair comme un cheval de croisade et aller contre les ennemis. Un autre pas. On l'a lu à partir du verset 57 et on peut lire le verset 58. Et Pierre le suivait de loin jusqu'au palais. Suivre de loin le Seigneur. Suivre de loin. Juste le voir. Voir qu'il y a sa silhouette par là-bas. C'est pas juste. C'est pas bon. Voilà un pas descendant encore. Et dans le même verset, encore une autre descente, on peut dire. Un autre marche plus bas. Verset 58 à la fin. Et étant entré, il s'assit avec les huissiers pour voir la fin. On peut presque dire, c'est une, une alliance volontaire voulue par Pierre avec ceux qui étaient les ennemis de Christ, les ennemis du Seigneur Jésus. On peut dire qu'il y a 6 pas avant ce 7e, on peut dire catastrophique. Mais ne jetons pas la pierre. Nous ferions de même. Il n'est pas meilleur, nous ne sommes pas meilleurs. Il faut juste se rendre à l'évidence qu'il y a un enseignement que nous devons tirer d'ici, c'est justement que notre chair ne vaut absolument rien. Et elle peut être très mise en valeur quand on veut faire un service à nos yeux grand pour le Seigneur. Et alors, on se croit. Et là, on gonfle la poitrine et on part à la bataille. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Pleurer amèrement sur ce que nous sommes, oui, mais confier pleinement dans la victoire, parce que lui, c'est le vainqueur.
Peut-être juste dire également que autant Pierre, il a confiance en lui-même, autant il doute des paroles du Seigneur. Il entend aussi... Pour reprendre tout ce qui a été dit, c'est que ce moment où Pierre il chute si lourdement, c'est un moment où on pourrait dire, si on transpose un peu à nos vies chrétiennes, nos marches chrétiennes, Pierre, en apparence, il paraît loin d'être dans un état catastrophique. Pierre, il a des paroles, même si le Seigneur le reprend, qui montrent il avait un amour, comme ça dit, très sincère pour le Seigneur. Après, puis on le voit, il suit de loin, certes, on y reviendra sans doute, mais enfin, même s'il y a ce moment où tous les disciples l'abandonnent, on comprend que Pierre, il ne s'est pas détaché complètement. Au contraire, même dans ce moment-là, Pierre, il n'est pas dans un état catastrophique. Et puis après, on va le voir dans ces interpellations successives à laquelle Pierre il est confronté. Elles mettent en évidence ce que Pierre, on pourrait dire, il avait un bon témoignage. Il est identifié sans ambiguïté dans ce cercle de personnes qui sont assez hostiles globalement. Ils sont assez diverses, mais hostiles au Seigneur. Il est identifié sans ambiguïté par sa proximité au Seigneur, par sa proximité avec les disciples, par son comportement un peu général dans sa façon de parler. Mais voilà, dans ce moment, Pierre chute lourdement avec ce glissement successif qui a été évoqué, qui doit nous montrer qu'il n'y a pas d'état où on pourrait considérer qu'à partir d'un certain âge ou d'un certain niveau de connaissance, d'engagement, on peut ne pas chuter aussi lourdement que Pierre. Et je crois que si Pierre il chute, il y a donc cette confiance en lui, en sa chair qui a été bien déjà évoqué, il y a ce doute qui s'installe envers les paroles du Seigneur. Parce que on sent, donc, en lisant les 4 évangiles, comme Pierre, il doute à ce moment-là. Et c'est peut-être dans un moment de doute aussi qu'on peut être attaqué par le diable dans nos vies. Il doute des paroles du Seigneur. Il avait entendu des promesses. D'ailleurs, on en a l'une. Le Seigneur l'a dit clairement, quand j'aurai été ressuscité. Et quand Pierre sort son épée, peut-être qu'il pensait que le moment était venu de combattre pour installer le royaume sur la terre. Il avait entendu toutes les promesses, les paroles du Seigneur qu'il concernait lui-même, qui concernait le Seigneur lui-même par rapport à sa mort. Il faut que les paroles qui concernaient Paul lui-même sur ce qu'il allait faire. De tout ça, finalement, Pierre, dans ce moment-là, il en doute. Et peut-être que c'est quand on doute dans nos vies des promesses qui sont attachées à notre vie chrétienne, promesses célestes. Des paroles du Seigneur, des paroles, la parole tout entière qui nous concerne, que le diable aussi peut attaquer un croyant. Des moments de doute. Voilà. Et donc, ça peut à la fois nous encourager à toujours nous réapproprier les paroles qui nous concernent dans la parole et les promesses aussi qui sont attachées, promesses célestes, perspectives célestes en particulier, et de bien considérer que si Pierre chute à ce moment-là, c'est pas un moment où Pierre est dans un état catastrophique, loin de là, et pourtant, Pierre va aller jusqu'à ce reniement si fort de dire « je ne connais pas cet homme ». Voilà, ça doit aussi nous interpeller, mais nous encourager en même temps à nous réapproprier toujours les paroles du Seigneur, celles qui nous concernent et celles qui concernent les promesses qui sont attachées à notre marche chrétienne.
c'était la nuit où le Seigneur Jésus fut livré, que toute cette scène a eu lieu. Et on peut lire juste le verset 30 de Matthieu 26, « Ayant chanté une hymne, ils sortirent et s'en allèrent à la montagne des Oliviers. » Le Seigneur avait institué la scène. Il avait parlé au cœur de ses disciples. Ensemble, ils chantent une hymne. Et puis, ils partent en chemin vers Gethsémané. Un certain temps pour y aller. Et puis là, Jésus leur parle encore. Et parle notamment à Pierre. Moi, je ne serai pas scandalisé. Moi, je ne te renierai pas. Même si tous les autres le font. Le Seigneur avertit Pierre. Et dans chaque évangile, on voit cela. J'aimerais simplement dire par rapport à ce qui vient d'être dit à propos de Satan aussi qui agit. Il y a d'un côté la présomption de Pierre pour visiter, mais il y a aussi l'action de Satan. Et on le voit en Luc 22, ça vaut peut-être la peine de juste lire ce verset, Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, et rappelle son nom. Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. On vient de dire la foi qui peut douter. Toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. On a déjà là l'instauration prévue. Mais Pierre insiste. Malgré cela, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Et le Seigneur dit à Pierre, avant que le coq chante, tu vas me renier trois fois. Le Seigneur lui parle, n'est-ce pas? Et combien c'est foi solennelle, touchant, de voir comment le Seigneur s'occupait de son serviteur, de Pierre. Le Seigneur savait qu'il allait le renier. Il l'avertit solennellement. Et il y a aussi cette référence à ce que Satan fait. Celui qui est l'ennemi, celui qui veut amener du trouble, amener un manquement. Pierre n'écoute pas. On l'a dit aussi tout à l'heure, à trois reprises, le Seigneur montre cela, n'est-ce pas? À propos de à Gethsémané, ensuite, on verra peut-être, il va dire à Pierre, « Simon, tu dors !» Et dans l'évangile de Marc, on a cela. « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure, veiller, prier, afin que vous n'entriez pas en tentation, que le Seigneur lui dit, « Attention !» J'ai dit que tu pouvais me renier, que Satan était là par derrière. Et puis, si tu veilles pas, si tu pries pas, tu peux tomber. Pierre n'écoute pas. Et puis, il y a cette scène, tu as rappelé, où on voit qu'il tire l'épée. Le Seigneur est obligé de lui dire, la coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas dans l'huile de Jean. À trois reprises, le Seigneur intervient quelque part pour essayer d'avertir jusqu'au bout son cher disciple Pierre. Pierre n'a été présomptueux, il pensait être meilleur que les autres. Pierre n'a pas su prendre le temps de prier, de veiller, à continuer à agir. Il va falloir qu'il fasse l'expérience de ce qu'il est vraiment. Ce que nous sommes, mais le Seigneur nous parle, chacun.
Par rapport au passage que Marc évoquait de Luc 22, peut-être qu'on en dira un mot, peut-être plutôt cet après-midi. Pourquoi Simon et pas Pierre? Le Seigneur l'avait appelé Pierre, il l'appelle Simon. Si vous donnez le nom à quelqu'un, un enfant, c'est bien pour l'appeler par ce nom. Seigneur dit Simon, Simon. Il y a quelque chose de très intéressant à derrière, mais je ne vais pas le dire ce matin. C'est Simon-Pierre est un des sept personnes qui est appelé deux fois interpellé par son nom. Il y en a quatre dans l'Ancien Testament, il y en a trois dans le Nouveau. Pour ceux que ça peut intéresser, simplement, je peux les citer rapidement. Nous avons Abraham, Abraham, dans Genèse 22. Nous avons Jacob, Jacob, alors qu'il est en train de s'en aller vers son fils, peut-être le chapitre 46, peut-être de la Genèse. Vous avez ensuite Moïse, Moïse. C'est le troisième de l'Ancien Testament. Et le dernier, c'est Samuel, Samuel. Chaque fois, c'est un très, très beau sujet qui est bien propre à toucher nos cœurs. On sent comme une émotion divine d'appeler par son nom deux fois quelqu'un. Abraham était en train d'offrir son fils et en cela partager les sentiments du père plus tard qui frapperait son fils. On sent l'émotion divine. Abraham, Abraham. Dans l'émotion divine, lorsque un homme qui a toujours été conduit par sa propre volonté, qui s'appelle Jacob, se trouve là, à Beersheba. Et Dieu s'est mûri dans ce rebelle, ce supplanteur qu'était Jacob, un fruit pour lui. Il s'arrête au sud du pays. Il offre un sacrifice. Manière de dire, ce coup-ci, c'est pas Jacob, c'est toi d'abord. Et l'émotion divine est là. Jacob, Jacob, ne te crains pas de descendre en Égypte. On sent l'émotion divine aussi lorsque, au buisson ardent, Dieu se prépare un serviteur extraordinaire, un Moïse. Tout est là dans ce buisson, nous sommes dans un désert, il y a un buisson épine qui nous parle de ce qu'est Israël, pire qu'une ronce, Miché peut-être. Et à l'intérieur, il y a le feu du jugement et en même temps, le buisson ne se consume pas. Et c'est ça qui a attiré Moïse. Voir un buisson qui brûlait, c'est pas, il n'y avait rien à voir pour un berger blanchi dans le désert pendant 40 ans. Mais là, il y a quelque chose. Le buisson ne se consume pas. Attiré par la grâce. Et Dieu appelle avec cette émotion divine. Moïse, Moïse. Et puis alors, quelque chose peut-être pour les enfants qui sont là. La première fois que ce contact est établi avec un enfant. Nul enfant n'est trop petit, toi non plus, tu n'es pas trop petit pour entendre quelque chose que le Seigneur Jésus veut te dire dans ton cœur. Et les enfants, le Seigneur n'est pas trop grand pour te parler à toi. Te dire un secret peut-être que tu vas serrer dans ton cœur et que tu n'oublieras plus jamais dans ta vie. Et alors Dieu dit, Samuel, Samuel, premier contact, quelle émotion divine vis-à-vis de celui qui serait un si grand serviteur. Alors nous avons les quatre de l'Ancien Testament, nous avons les trois du Nouveau. Et dans Luc 10, n'est-ce pas, Marthe, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses, il n'a besoin que d'une seule. Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Et puis, cette émotion divine que, dans le passage que Marc nous a cité, Simon, Simon, être renié par quelqu'un que vous avez fréquenté pendant 3 ans et demi, qui a été là, vous avez mangé ensemble, vous avez marché ensemble, vous avez, Marc nous l'a dit tout à l'heure, vous avez parlé ensemble, vous avez chanté ensemble, vous avez, Simon, Simon. Et puis alors le dernier, troisième de l'Ancien Testament, donc Marthe, Simon, Simon est le troisième. C'est aussi, quelle émotion divine de la part de Dieu lorsque, sur le chemin de Damas, celui à qui personne n'avait pensé. Imaginons les croyants qui disaient il faudrait quelqu'un que Dieu suscite pour... On avait peut-être annoncé, avancé des noms, peut-être. Oui, pourquoi pas Jacques? Pourquoi pas Pierre, tiens? Vous pouvez penser à beaucoup de gens, mais à celui-là, personne n'aurait pensé. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa majestueuse souveraineté, fait ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut. Et alors nous avons cette émotion divine. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Excusez-moi, je suis un tout petit peu long, j'en ai conscience. J'avais encore quelque chose, j'aurais voulu juste, mais très courtement, par rapport à ce qu'on a évoqué quand Pierre tire son épée. C'est une remarque que je voudrais faire qui est tellement actuelle. Par la grâce de Dieu, ni vous ni moi, nous n'avons un Dieu que nous avons besoin de défendre. Il y a des religions qui ont besoin de défendre leur Dieu. Nous, nous avons un Dieu qui sait bien se défendre tout seul, n'est-ce pas? Et puis une dernière petite chose. Dans le premier paragraphe qui a été lu, bien reconnaissant qu'on ait lu ce paragraphe, on voit quelqu'un qui parle du fond de son cœur. Et nous parlons souvent du fond de nos cœurs, que ce soit au culte, que ce soit dans d'autres réunions, que ce soit quand nous parlons du Seigneur. Mais le Seigneur ne nous attend pas seulement dans nos paroles. Le Seigneur nous attend dans notre marche. Vous savez, les enfants, ceux qui sont au lycée, il y a souvent le cours. On peut le savoir sur le bout des doigts. Et puis après, les travaux pratiques où il faut mettre en application. Et ça, c'est une vérité qui nous reprend tous, n'est-ce pas? Très fort en parole. Très fort pour dire des choses magnifiques. Il se dit des choses magnifiques dans les rassemblements. Où en est la pratique derrière?
Pierre se croyait être fort, même plus fort que les autres. Rappelons-nous ce que dira l'apôtre Paul, « Quand je suis faible, alors je suis fort. » Si nous comptons sur nos propres forces, ce sera toujours l'échec. Mais si nous comptons sur la puissance de Dieu et sur sa grâce, alors nous aurons la victoire. Pierre se croyait supérieur aux autres disciples. Et on l'a déjà dit, n'est-ce pas un danger qui nous guette? Au sein de notre propre assemblée, nous avons besoin d'humilité. Le Seigneur lui-même dit, je suis humble, je suis débonnaire et humble de cœur. Et combien cette humilité nous fait souvent défaut. Nous pensons que peut-être parce que nous avons plus de connaissances, eh bien, sans aller jusqu'à mépriser les autres, mais nous les considérons comme moins bien que nous. Mais cela peut aussi être le cas vis-à-vis d'autres chrétiens qui ne se réunissent pas avec nous, qui n'ont peut-être pas les mêmes connaissances que nous. Mais là aussi, nous avons à être humbles. Il y a dans bien des domaines où ils sont des exemples pour nous. Gardons la place où Dieu nous met. Nous voyons souvent dans les évangiles et au début des actes, Pierre et Jean ensemble. Alors on peut dire que Pierre était quelque part plus occupé de son amour, de son zèle pour le Seigneur. Par contre, Jean était plus occupé de l'amour du Seigneur pour lui. 5 fois dans son évangile, il s'intitule lui-même le disciple que Jésus aimait.
Voilà ce qui doit remplir nos cœurs, c'est l'amour du Seigneur Jésus pour moi.
Déjà rappelé que le Seigneur Jésus savait tout à l'avance de ce qui allait se passer. Et pourtant, il va laisser Pierre vivre cette expérience. Il y a d'un côté la responsabilité de Pierre. C'est ce qu'il y avait dans le cœur de Pierre. Il avait besoin d'apprendre cette leçon. Et le Seigneur Jésus, dans ce moment si particulier, si proche de la croix, ce moment terrible qui allait l'atteindre très profondément, s'occupe de son disciple, l'avertit. Et quel était le but du Seigneur à ce moment-là? Certes, le reniement de Pierre lui a fait de la peine, mais ce qui avait été devant le Seigneur Jésus pour son disciple, c'était lui faire du bien à la fin. Il avait déjà en vue sa restauration. Il savait aussi que Pierre allait être utile pour lui. Et le Seigneur peut nous faire faire des expériences. Nous tombons parfois, nous faisons de la peine au Seigneur Jésus. Mais s'il y a notre responsabilité d'un côté, il y a aussi le travail du Seigneur Jésus inconditionnel pour nous. Il veut notre restauration et que notre amour puisse brûler de nouveau pour lui.
On parle du reniement de Pierre. On peut dire aussi peut-être que, avant de parler de cela, on peut voir aussi que Pierre était bien identifié à son Seigneur. Et dans ce sens-là, déjà, avant de tirer des leçons du moment où il renie, on peut peut-être déjà quand même tirer une leçon du fait que Pierre était bien connu comme étant très lié à quelqu'un qui n'était pas très glorieux de connaître à ce moment-là. Lorsque la première servante s'approche de lui, elle lui dit, on imagine cette scène, hein, Pierre s'est assis autour de ce feu, des hommes, des femmes autour, il voit le Seigneur un peu plus loin, imagine cette scène un peu dans la nuit. Et puis une servante qui s'approche de lui et qui lui dit, tu étais avec Jésus, le Galiléen, c'est pas le fils de David. Le Galiléen, la Galilée des nations. C'était vraiment la province un peu méprisée. C'était l'endroit quand on était un bon juif. Galiléen, c'était tout sauf un titre de gloire. J'étais avec Jésus le Galiléen. Pierre était connu pour être de ceux qui étaient avec lui. Et puis, un peu dans le verset suivant, une autre qui s'approche de lui, une autre servante dans ce passage. Et elle lui dit de nouveau, celui-ci, elle s'adresse à ceux qui étaient là, elle prend à témoin ceux qui sont autour cette fois-ci, elle ne s'adresse pas directement à Pierre, elle dit, celui-ci aussi était avec Jésus, le Nazaréen. Le Nazaréen, vous vous souvenez de ce que dit Nathanaël au début de Jean? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il peut y avoir quelque chose de bon qui vient de cette bourgade un peu poussiéreuse là? C'est pas du tout un titre de gloire. Et Pierre, il dit, mais sa servante dit, oui, mais je connais, il fait partie de ceux qui étaient avec lui. Alors, peut-être c'est déjà une leçon pour nous de se dire, est-ce que autour de moi, on me connaît comme étant de ceux qui suivent le Nazaréen. On ne l'appelle pas comme ça, Seigneur Jésus, mais on pourrait dire un sauveur qui est méprisé, un sauveur qui est rejeté aujourd'hui. C'est assez facile hein, de dire, comme Pierre l'avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme Benjamin le disait tout à l'heure, quand on est le dimanche tous ensemble, le dimanche matin, entre croyants, entre nous, on peut dire, eh bien, on est heureux d'affirmer notre foi. Et puis, quand on est dans d'autres circonstances, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait cette expérience? De ne pas avoir très envie d'être identifié au Seigneur. Vous savez, moi, j'ai des souvenirs, et pas des souvenirs aussi récents, pas que des souvenirs, mais des souvenirs d'adolescents, par exemple, on était allé chanter à la fête de la musique avec les amis d'assemblée, chantait les cantiques dans la rue à Aix, où j'ai grandi. Et j'étais content d'y aller. J'avais juste une hantise, une grande peur, c'est qu'il y ait des copains de classe qui passent devant et qui me voient chanter des vieux cantiques avec mes frères et sœurs, pourtant que j'aimais beaucoup, j'étais content d'être avec eux. Mais alors si je pouvais éviter de tomber sur un copain de classe ce jour-là, je préférais, franchement. Je suis pas sûr d'être tout seul, d'avoir déjà vécu des choses comme ça, où on n'a pas très envie d'être associé, d'être identifié au Seigneur. Et aujourd'hui, être un chrétien, c'est être identifié à un Seigneur qui est rejeté. Il y a une forme d'opprobre, je pense, à ce verset dans les Hébreux. Il est parlé de Moïse, il est dit « préférant l'opprobre du Christ aux richesses de l'Égypte », je crois. Voilà. Il y a une forme d'opprobre à être associé au Seigneur Jésus aujourd'hui dans un monde qui l'a mis sur une croix, qui l'a rejeté, qui ne veut pas de lui. Et Pierre faisait partie de ceux qui étaient connus pour ça. Est-ce que moi, on me connaît pour autant? Voilà, il y a tellement d'occasions que j'ai manquées dans notre vie, quand on nous dit « Tiens, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, par exemple ?» Eh bien, oh, on va parler un peu du samedi, puis on évite de trop parler du dimanche, quand on est avec des collègues, quand on est avec des non-croyants. On a un peu de mal à dire « Ben, le dimanche, j'étais avec d'autres croyants, on s'est retrouvés parce que je suis croyant, etc. » On a du mal à ça, souvent on évite. Peut-être que ce n'est pas un reniement aussi, on peut dire, spectaculaire que celui de Pierre, mais il y a une certaine forme de reniement lorsque on cherche à être de la couleur de la muraille. Hein. On entend des choses parfois, et puis surtout, on ne se manifeste pas. Alors, d'une certaine façon, c'est quand même une forme de reniement de la part du Seigneur. Alors, des fois, on voit ce reniement de Pierre, on se dit, oh là là, vraiment, c'est une chose, avoir renié le Seigneur comme ça par trois fois, quand même. Hein. Et puis, finalement, il y a tellement de fois où on entend des choses autour de nous, et on ne se manifeste pas. On se trouve toujours des bonnes raisons. Moi, je me trouve souvent des raisons, oui, il y a beaucoup de monde, ce n'est pas le moment, ce serait plus facile d'en parler individuellement. Puis des fois, c'est dans les relations de travail. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois de parler de certaines choses. Voilà, moi, j'ai vécu une situation, je crois que c'était mardi de cette semaine. Je ne dis absolument pas pour parler de moi, mais dans lequel on discutait avec des syndicats de savoir s'il fallait augmenter le nombre de jours de congés pour le mariage. Et alors, on s'est dit, bien, ça concernerait combien de personnes? Et alors, ils se sont dit, voilà, qui c'est qui vit dans le péché ici? Alors ça fait rire tout le monde. Et ils se sont mis à dire, combien, alors, qui c'est qui vit dans le péché, etc., qu'on a pour savoir ceux qui étaient mariés et ceux qui n'étaient pas mariés. Et moi, j'ai rien dit. J'étais pas à l'aise. Mais voilà, c'était une réunion de travail, c'était pas le moment, peut-être, je me suis dit, voilà. Et pourtant, je sentais que j'étais là, assis avec des gens qui plaisanter sur un sujet où je me disais, c'est pas un sujet de plaisanterie. Alors, on vit souvent des situations comme celle-là, et il faut accepter d'être associé à un Seigneur qui est rejeté et qui a une opprobre par rapport à ça, et c'est difficile. Il ne faut pas se dire que c'est quelque chose qui est simple, qui est facile. Et Pierre, avant de parler de son reniement, il faut dire qu'il était pleinement associé, connu comme étant quelqu'un qui était associé à ce Galiléen, à ce Nazaréen, à cette personne que tout le monde méprisait. Pierre était connu. Alors peut-être retenons aussi dans ce sens-là quelque chose d'abord de positif, un modèle pour nous dans cette association très claire avec son Seigneur, au point que tous ceux qui le voient disent « Mais toi, tu es de ceux qui sont avec lui ». Est-ce qu'on peut toujours dire ça de nous, de moi ?
J'aimerais juste mettre un peu en contexte aussi dans la comment Pierre était, les disciples étaient. On peut voir en Jean 1 au verset 41 où André trouve le Seigneur d'abord. Après, il va vers son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Après, on peut voir en Matthieu 16, pour eux, pour les disciples, c'est le Messie, celui qui devait venir sauver Israël. On peut dire, pour nous, quelqu'un qui vient nous délivrer, on est sûr qu'il ne va rien lui arriver parce que c'est celui qui doit venir nous sauver. Et pour eux, c'était vraiment le Messie qui venait régner sur la terre, qui venait régner sur Israël et il ne pouvait rien lui arriver. Et puis on peut voir, oui, dans Matthieu 16, verset 22, Et Pierre, le prenant à part, se met à, après que Jésus lui ait dit verset 21, dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il fut crucifié le troisième jour, qu'il fut ressuscité le troisième jour. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, disant, « Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Va en arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » C'est vraiment particulier là où eux pensaient avoir ce Jésus comme ce Messie qui venait régner sur eux. Donc rien ne lui arriverait. Et de voir le Seigneur mis à mort devant lui, combien pouvait-il être perturbé de voir cela à celui qui pensait être ce roi éternel. Et on peut comprendre cela d'une certaine manière que c'était complètement anéanti, scandalisé. Et puis, ouais, c'est, on peut, ouais, vraiment dire que pour nous, pour moi, ça m'arriverait pareil, la même chose. Et puis, je voudrais juste encourager, maintenant qu'on sait que le Seigneur est ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu et qu'il nous a donné ce consolateur qui est le Saint-Esprit. On peut lire en 1 Corinthiens 9 que Paul dit par rapport à la chair, comment il faut vivre. Verset 26, Corinthiens 9, 26. Moi donc, je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but je combats ainsi, non comme battant l'air, mais je mortifie mon corps et je l'asservis de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. C'est dans cette situation, dans cette pensée qu'il faut vivre, de penser je suis mort avec Christ, ce n'est plus ma chair qui vit, mais je vis dans le Seigneur, par le Seigneur. Et je voulais ajouter encore un verset. Oui, Galates 3, verset 20 et 21. Non, juste le verset 20. 19 déjà. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et encore un autre verset en 2 Timothée 1, verset 8, comme tu as dit, Rémi. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile, selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant les temps des siècles. C'est dès toujours que ça a été dit que le Seigneur allait être rejeté et qu'il allait être ressuscité pour être toujours Seigneur sur ceux qui croient en lui. Et oui, peut-être Pierre était complètement scandalisé, mais par la suite, on verra aussi dans les deux épîtres. Peut-être on parlera des deux épîtres qu'il a écrits. Quel changement il y a eu dans son cœur, voyant le plan complet, plan divin que Dieu avait préparé à l'avance.
Juste reprendre une chose qui vient de nous être dite. C'est la disposition de tous les disciples par rapport au Seigneur. Ils pensaient tous, que le Seigneur allait vers un trône. Pourtant, le Seigneur n'a pas fait mystère pour leur dire qu'il allait pas vers un trône, mais vers une croix. Mais est-ce qu'il y a pour nous un enseignement? Certainement. Il peut arriver que nous ayons une idée complètement prioritaire, que nous sommes incapables de remettre en question. Quelquefois, il y a des choses que nous avons verrouillées dans notre vie pratique, dans ce que nous croyons peut-être, et que nous ne sommes pas prêts à être déstabilisés. Et ça, c'est un gros problème parmi nous. Est-ce que je suis prêt encore à me laisser déstabiliser par la parole de Dieu? Ou bien, de toute façon, je sais à peu près ce que ça veut dire, et puis, de toute façon, j'ai réglé le problème. Le Seigneur va vers un trône. Le Seigneur va vers un trône. Et pourtant, le Seigneur leur a dit. Et on a lu dans le chapitre 16 de Matthieu, le Seigneur ne fait pas mystère du fait qu'il allait vers une croix et vers de la souffrance et vers la crucifixion. Et ce n'est pas rentré. Et ce n'est pas rentré parce qu'il y avait une idée prioritaire dans leur cœur qu'ils ne remettaient pas en question. Nous avons quelque chose à apprendre là. Est-ce que nous avons des choses que nous refusons de remettre en question, même quand la parole de Dieu nous parle? Et alors elle glisse, comme elle a glissé 3 ans et demi sur le cœur des disciples. C'est quand même solennel.
Il y avait une situation dont le Seigneur Jésus a déjà parlé sérieusement à Pierre. C'est en Matthieu 16, verset 21. « Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il fut ressuscité le troisième jour. » Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, disant, « Seigneur Dieu, t'en préserve, cela ne t'arrivera point. » Lui, se retournant, dit à Pierre, « Va arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale. Car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. » Voilà. Il dit, ça ne t'arrivera jamais. Il avait encore, comme c'était dit devant lui, l'idée que c'était le Messie qu'il avait commencé son royaume. Il voulait participer à ce royaume. Mais le Seigneur l'avait déjà bien montré qu'il allait mourir. Il allait être à la croix. Là, il le dit encore. Il le prend à côté. Il dit, non, ça ne t'arrivera pas. Alors, il croit qu'il pouvait, lui, dire quelque chose au Seigneur, qu'est-ce qu'il allait à faire. Nous, comment nous, on pense? Pensons-nous aussi que nous pouvons dire au Seigneur que ce qu'il a à faire vis-à-vis de nous? Alors, à quoi pensons-nous? À ce que le Seigneur soit glorifié ou que c'est le moi qui est glorifié. Alors, et le Seigneur doit lui dire, va derrière moi. C'est Satan qui parle en lui. C'était un croyant. Il avait le nouveau nom. J'ai un Pierre. Pierre, c'était une pierre vivant dans la maison de Dieu. Il avait même dit, sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Non, pas sur Pierre, mais pas, c'est ce que Pierre avait dit. C'était lui le fils du Dieu vivant. Alors, et maintenant, il avait bien beaucoup de bonnes confessions de Pierre. Moi, j'aime méditer sur cette personne. En plus, c'était le premier bouquin que j'ai reçu, c'était sur Pierre, que j'ai étudié dans ma jeunesse. On se voit dans cette personne. On voit qu'il aimait son Seigneur. Il était un nouveau-né, mais il ne se connaissait pas assez lui-même. On l'avait déjà dit. Est-ce que nous connaissons nous-mêmes? Est-ce que moi, je me connais assez? Il peut avoir vite une situation où je tombe. Je tombe. On ne peut pas dire qu'on ne fait pas comme Pierre. On a rappelé quelques situations. Ça commence à la prière en public. Est-ce que quand nous sommes dans un restaurant ou dans le restaurant de cuisine, est-ce que nous prions avant le repas? Ou moins, est-ce que je baisse la tête avant de manger? Alors, pendant mes voyages, j'ai souvent reconnu des croyants quand ils priaient avant le repas. Et alors, on voit quelqu'un. Ah, c'est un enfant de Dieu qui connaît son maître. Alors, il dit, mais lui, il n'était pas prêt. Il disait non. Alors, Satan était derrière pour l'empêcher. Et le Seigneur a dû lui parler sérieusement. Il se rappelait peut-être plus de ça. Est-ce que nous nous rappelons encore quand le Seigneur nous a parlé sérieusement? Combien de fois il nous a montré un feu orange au moins, ou c'était pas rouge, et on a continué. On a continué sur notre chemin jusqu'à ce qu'on tombe. Alors il faut qu'on tombe sur notre nez pour voir ce qui est en nous. Je crois que c'est arrivé à beaucoup de gens ici qui sont tombés parce qu'ils ont oublier que le Seigneur les a avertis. Et même, le Seigneur allait si loin qu'il disait, Simon, Simon, Satan a vous ciblé comme ça a été lu en Luc 22. Alors, encore un avertissement. Est-ce que nous écoutons ces avertissements? Et en même temps, c'était un avertissement et un encouragement. Mais moi, j'ai prié pour toi. Voilà. Est-ce que nous voyons comment le Seigneur parle à nos cœurs? Combien il est occupé de nous, mais il nous parle chaque jour. Est-ce que nous écoutons sa voix? Et il prie pour nous. Et c'est ça qui est certainement qui a retenu Pierre pendant ces 3 jours qui suivaient à son dénouement.
Verset 74, un avertissement sur ce que dit Pierre, il se mit à faire des imprécations. On n'aime pas être différent des autres. Alors, on essaye de ressembler aux gens du monde dans sa façon de parler. J'ai vécu, il y a quelque temps, il y a longtemps, cette circonstance, j'ai mal parlé. Et quelqu'un du monde m'a dit, « Toi, tu parles comme ça ?» Eh bien, on se sent repris parce que, en fait, on ne parle pas comme ça et on peut avoir un manquement, mais les gens du monde nous repèrent très vite. Quand quelqu'un blasphème contre le Seigneur, comment est-ce que je réagis? Je me tais ou est-ce que je défends mon maître? Souvent, on entend les gens mal parler. Est-ce qu'un chrétien parle mal? Alors on peut lire un passage dans Colossiens, par exemple, au chapitre 3, verset 8. «
Mais maintenant, renoncez vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injure, parole honteuse venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, ayant revêtu le nouvel homme. Et aussi dans Éphésiens au chapitre 4, Éphésiens 4, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit ce qu'un chrétien doit être, une chrétienne doit être. Verset 25, c'est pourquoi ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain. On est dans un monde de mensonges. Un chrétien dit la vérité, quoi qu'il en coûte. Verset 29, qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous aide à avoir un langage de chrétien, de ne pas avoir honte de dire que nous appartenons à Christ.
Qu'est-ce que ça veut dire faire des imprécations ? Ça rejoint ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est la parole d'exécration. J'appelle le malheur sur moi si je mens. Parole d'exécration. Qu'il m'arrive pas quelle catastrophe si je vous dis pas la vérité. C'est ça que Pierre a fait. Et nous avons aussi encore un passage par rapport aux autres passages que nous avons cité, c'est 2 Corinthiens 1, verset 17, en me proposant donc cela, est-ce que j'aurais usé de légèreté ou les choses que je me propose, me les proposais-je selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui-oui et le non-non, mais Dieu est fidèle, que notre parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. C'est-à-dire qu'on croit pouvoir appuyer ce qu'on dit par une espèce de serment, une espèce de sentence. La parole reprend ce genre de choses. Nous avons à dire la vérité tout simplement, sans forcément y ajouter quelque chose, donner de la force. La parole a sa propre puissance par elle-même. La vérité a sa propre puissance par elle-même. Vous me direz, là, il ment, Pierre, il ment. Mais pour nous, il y a cette instruction, c'est que nous n'avons pas besoin de forcer le trait. Nous avons à présenter tout simplement ce que dit la parole, et la vérité a sa puissance par elle-même. Donc, il appelle le malheur sur lui et la grâce du Seigneur va amener la bénédiction sur Pierre en ce qu'il apprendra à se connaître et ce sera pour lui un chemin de bénédiction. On voit comment lui, il appelle le malheur sur lui, il appelle la malédiction, l'imprécation. Et Dieu a pensé, à travers cette circonstance difficile, Dieu a pensé à le bénir.
On pourrait prendre dans l'évangile de Marc, peut-être, noter un ou deux détails qui sont donnés dans cet évangile, Marc au chapitre 14. Marc 14, je lis le verset d'abord, le verset 54. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur du palais du souverain sacrificateur, et il s'assit avec les huissiers et se chauffait près du feu. C'est très proche de ce que nous avons déjà lu dans Matthieu. Ce que je veux souligner, c'est que Pierre s'est mis dans une situation très dangereuse. On peut dire qu'il s'y est mis volontairement. D'abord, il n'est pas resté avec les autres disciples. C'est le seul disciple qui s'est un peu isolé des autres. D'ailleurs, on pourrait voir dans l'évangile de Jean que croyant bien faire,
Jean facilitait son entrée parce que Jean connaissait un portier, je crois, un serviteur du souverain sacrificateur. Alors Jean lui-même, il était là, mais probablement, même si je ne veux pas faire plus loin que ce que dit la parole, mais enfin, en tout cas, on peut constater que Jean n'a pas pensé qu'il devait lui entrer. Mais Pierre a dû lui dire « Ah, tu le connais, est-ce que tu peux essayer de me faire entrer ?» Et Jean, croyant bien faire, a fait entrer Pierre dans le palais. Et sans doute, c'était un endroit où Pierre n'aurait pas dû aller. Il s'est éloigné des autres disciples. Il aurait pu attendre la résurrection, la promesse que le Seigneur avait faite de sa résurrection avec les disciples. Il a choisi de se mettre à part et d'entrer dans ce palais. Et il nous est dit qu'il suivait donc de loin. On a déjà dit quelque chose là-dessus, mais cette expression, elle est quand même significative, elle y est deux fois. Suivre le Seigneur de loin. Ça fait penser, vous savez, à ce que dit ce verset dans 1 Samuel, où David dit à Abiathar, si je ne me trompe pas, « Près de moi, tu seras bien gardé. Près de moi, tu seras bien gardé. » Alors le contraste est frappant avec ce verset où il suit de loin. C'est quand on est près du Seigneur qu'on est gardé, et là, ce n'était pas la situation de Pierre. Et puis, il s'assied avec les huissiers, des servantes, des huissiers qui étaient là, des gardes, des serviteurs. Il faisait froid, sans doute, c'était la nuit, en pleine nuit. Il y a un feu qui est là pour se chauffer. Et Pierre a envie de se chauffer un peu, alors il s'approche de ce feu. Ça nous pose aussi une question de dire, on pourrait appliquer ça en disant, à quel feu est-ce qu'on se chauffe? À quel feu je me chauffe? On verra sans doute cet après-midi qu'il y a eu un autre feu. Le Seigneur, quand il s'est fait connaître aux disciples, c'était aussi autour d'un feu. Mais à ce moment-là, Pierre va se chauffer parce qu'il en a envie, un feu où il ne devrait pas être, qui ne va pas lui faire du bien. Et c'est attirant un feu. Il y a de la lumière, il y a de la chaleur, il y a de la compagnie. Et voilà, quelque chose qui peut nous parler assez pratiquement des fois. Dans quelle compagnie je me trouve? À quel feu je me chauffe? Qu'est-ce qui m'attire? Est-ce que je suis avec des amis croyants qui me font du bien? Ou est-ce que je suis attiré, amorcé à aller quelque part dans lequel je vais me retrouver avec des gens qui ne sont pas croyants, qui se chauffent à un feu, c'est-à-dire qui s'intéressent, qui vont s'amuser, qui vont trouver leur plaisir dans quelque chose où je sens bien que ma place, elle n'est pas là? Mais j'y suis quand même, je m'y retrouve quand même. Et Pierre va se chauffer à ce feu. Ça fait penser à ce psaume aussi, le psaume 1, je vais lire, bienheureux, pour pas mal le citer, qui nous parle un peu des compagnies qu'on choisit. On comprend bien que là, on n'est pas dans le cadre de relations professionnelles. Hein. C'est le passage qui nous dit, ben oui, vous devez bien côtoyer des gens qui ne sont pas croyants. Paul le dit, sinon il faudrait que vous sortiez du monde, que vous viviez comme des ermites. Là, on comprend bien que dans cette situation de Pierre, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas une contrainte qu'il avait, qu'on peut dire Dieu permet dans nos vies, il connaît. C'est un choix qu'il a fait très délibéré de se retrouver là où il n'aurait pas dû être. Et je lis ce psaume 1, le premier verset des psaumes. « Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil de méchants, qui ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs. » Au siège des moqueurs. Ceux qui se sont moqués du Seigneur Jésus, qui, quelques minutes peut-être après, vont lui mettre quelque chose sur la tête et le frapper en disant « Prophétise ! Qui c'est qui t'a frappé ? Dis-nous qui vient de te frapper !» Ils vont se moquer du Seigneur d'une manière abominable. Et Pierre se retrouve là, près de ses gens. Et encore une expression, toujours revient dans l'évangile de Marc au verset 14, un petit peu après, au verset 66, « Et comme Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du souverain sacrificateur vient, etc. » Ce mot-là aussi, il est assez significatif. On a dit qu'il se tient de loin, et puis il est isolé des autres disciples, et puis là, il nous est dit, il est en bas dans la cour. Et ça fait penser à ce verset aussi des Colossiens, qui nous dit comme croyants, est-ce qu'on est appelé à être de ceux qui se tiennent en bas, dans la nuit, près d'un feu où on ne devrait pas être, avec des compagnies qui nous entraînent dans un mauvais chemin? Il est dit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, pas les choses qui sont en bas, les choses qui sont en haut. Pensez aux choses qui sont en haut. Il y a cette exhortation très forte de dire, le chrétien est quelqu'un qui est d'en haut, qui est du ciel. Il n'est pas quelqu'un qui est du feu en bas, dans la cour, loin du Seigneur. Il est de ceux qui sont en haut. Vous êtes ressuscités ensemble. Il y a cet aspect collectif aussi qui est très beau dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes de ceux qui sont du ciel ensemble, tous avec frères et sœurs croyants. Vous êtes maintenant du ciel. Vous avez une espérance. Vous n'êtes plus attaché à cette terre. Alors voilà, Pierre s'était mis dans cette situation difficile, isolé des croyants, loin du Seigneur, à un feu où il n'aurait pas dû être, dans une compagnie où il n'aurait pas dû être, en bas, dans la cour, et les conséquences, elles sont là. Alors, il y a un vrai avertissement pour nous de nous dire avec qui je suis, avec qui je passe du temps, dans quelle compagnie, dans quel but, est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels je sens que ma place n'est pas, où je ne dois pas aller. Et peut-être si j'y suis allé, Est-ce qu'il y a un moment où je me dis, ben, ma place n'est pas là, est-ce que j'ai le courage de dire, moi je vais y aller, je m'en vais, je ne reste pas là, parce que je sens bien que je suis à un endroit où je ne me fais pas du bien, où je ne suis pas là pour rendre témoignage du Seigneur, je suis juste là pour, avec dans une compagnie, dans des activités où je sens que ma place n'est pas là. Et je crois que c'est vraiment une leçon à retenir aussi de ce reniement, c'est qu'il y a des endroits où nous ne devons pas être, des compagnies qui ne sont pas bonnes pour nous, qui nous mettent en situation dangereuse, qui nous mettent dans une position de fragilité, et on peut demander au Seigneur qu'il nous aide à éviter ces choses, à éviter ces moments, ces situations, ces compagnies, pour que près de lui, on soit bien gardé.
Juste sur la lecture de deux versets. Donc la fin du verset 74. Je ne connais pas cet homme. Maintenant, le verset 35. Quand même, il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Alors les sujets sont bien inversés. Pourtant, il y a un point de similitude. C'est que Pierre y répond peut-être de manière excitée. Fin du verset 74, il est excité par sa chair, il ne veut pas périr, il ne veut pas mourir. Sa chair qui répond, qui lui fait dire ça. Verset 35, c'est encore sa chair qui répond et qui lui fait parler par orgueil, donc ça on l'a déjà dit. Juste, ça c'est... Tout à l'heure on a parlé de la Bible, on renverrait comme un miroir de temps en temps, et on aime ou on n'aime pas se regarder dedans. Des fois, on n'apprécie pas, et c'est vrai que la Bible n'est pas avare dans le conseil, et ça nous apprend que parfois, prenons le temps de réfléchir avant de répondre quelque chose. Parce que, enfin, là, on voit de l'amour aussi, quand je ne te renierai pas. Ne parlons pas trop vite. Je suis tombé dessus, donc un verset dans les Proverbes, chapitre 14, au verset 29, il a lenteur à la colère et grande intelligence. Je veux dire aussi que, quand on est excité, c'est une sorte de colère qui nous fait parler. La suite du verset, c'est celui qui est d'un esprit, la lenteur à la colère est d'une grande intelligence, mais celui qui est d'un esprit impatient exalte la folie. Et finalement, si on parle trop rapidement, si on ne réfléchit pas à ce qu'on veut faire, si on ne réfléchit pas à ce qu'on veut dire, des fois on peut faire du tort. On peut dire des choses qui sont insensées. C'est ce que Pierre a fait. C'est ce que nous faisons peut-être des fois quand on parle trop vite. Prenons le temps quand nous lisons ça, de nous dire que on a une responsabilité dans notre vie avec Dieu, on n'a pas à dire n'importe quoi d'une manière excitée. Il faut qu'on prenne le temps de réfléchir combien c'est pour parler de l'évangile, de ne pas répondre excité à « je ne te ne renierai pas » et quand bien même on nous pointe du doigt quelque chose, ne pas répondre de manière excitée non plus. On a tous des situations, je pense, même que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, où on a notre chair qui veut prendre le dessus sur ce que nous sommes en tant que chrétiens. Vaut mieux se taire. Il y a aussi un autre verset qui dit que le fou peut paraître intelligent s'il reste muet. Enfin, c'est exactement pareil, mais voilà, de temps en temps, je veux dire, prenons garde à ce que nous disons et à comment nous disons.
Comment un disciple zélé comme Pierre, aimait le Seigneur profondément, qui avait pu dire « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Et le Seigneur lui dit « Tu es bienheureux, Simon, par Jonas ». Et puis, il est sur la montagne. Il peut dire dans son épître « J'ai vu la gloire magnifique ». Oui, il était tout proche du Seigneur. Et puis, on le voit là. On a lu où il peut dire « Je ne connais pas cet homme, celui dont il avait parlé, qu'il avait entendu les paroles de la vie éternelle. Je ne connais pas cet homme. » Voilà jusqu'où il est descendu et où on peut, nous aussi, tomber. Nous ne sommes pas meilleurs que Pierre. Rémi a dit tout à l'heure, il y a des endroits où il ne faut pas aller. Les compagnies, il ne faut pas vivre on sent bien qu'on peut être entraîné ensuite. D'ailleurs, Jean n'a pas été peut-être utile, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais en Jean 18, on voit, je vais peut-être lire ça en Jean 18, au verset 15, votre disciple, il semble bien que ce soit Jean, était connu du souverain sacrificateur. Il entre avec Jésus dans le palais. Pierre se tenait à la porte et on le voit au verset 16. Le disciple connu du souverain sacrificateur sortit et parla à la portière et fit entrer Pierre. Peut-être Jean n'a pas été non plus utile à Pierre à ce moment-là. Attention à ne pas être conduit par l'un, par l'autre, mais être conduit par le Seigneur. Si Pierre avait écouté ce que le Seigneur lui avait dit en Jean 13, quelque chose aussi, un avertissement. En Jean 13, c'est pendant cet entretien du Seigneur avec ses disciples. Il y a eu un petit entretien entre Pierre et le Seigneur. C'est en Jean 13, à la fin, Simon Pierre, toujours, qui essaye d'interrompre le Seigneur et qui lui dit « Où vas-tu ?» Et alors, c'est intéressant de noter au verset 36, Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre. Maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Mais pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je laisserai ma vie pour toi. » Et alors le Seigneur est obligé de lui dire « Mais tu vas me renier trois fois. » Le Seigneur lui avait dit « C'est pas le moment. Tu ne peux pas me suivre dans ce chemin-là. » Et s'il avait écouté ce que le Seigneur l'avait dit, il ne serait pas allé dans cette maison de souverain sacrificateur. Il ne peut pas me suivre. Maintenant, ne soyons pas présomptueux, disant « Moi, je veux suivre le Seigneur comme je le veux moi-même. » Le Seigneur l'a averti. « Tu me suivras plus tard, oui, je vais travailler en toi. » Et on voit comment ensuite l'apôtre Pierre suivra, mais c'est le sujet de cet après-midi. Soyons attentifs aux avertissements que le Seigneur donne. Et même si nous sommes engagés pour le Seigneur, si nous avons à cœur de le suivre comme Pierre l'avait d'une manière remarquable, et c'est un exemple de bien des manières pour nous, soyons attentifs aux avertissements que le Seigneur nous donne, à ce qu'il place devant nous afin de ne pas tomber comme Pierre. Je ne connais pas.
Le Seigneur Jésus, on vient de le dire, avait averti Pierre. Et le Seigneur Jésus, Pierre va encore être averti. Nous ne le voyons pas dans l'évangile ici, mais lisons dans l'évangile selon Marc. Au chapitre 14, au verset 30. Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis qu'aujourd'hui, cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté deux fois, toi, tu me renieras trois fois. » Et alors un peu plus loin, au verset 68, le fin du verset, oui, verset 68, « Et il le nia disant, je ne sais ni n'entends ce que tu dis. » Et il sortit dehors dans le vestibule, et le coq chanta. Une première fois, le coq chante. C'est encore un avertissement à Pierre. Le Seigneur t'a dit, avant que le coq chante, deux fois. Voilà, une première fois, le coq chante. Mais Pierre n'a pas fait attention. Et donc, dans la suite du verset, il dit encore, verset 71, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et le coq chanta pour la seconde fois. Pauvre Pierre, on l'a dit, s'il avait déjà écouté le Seigneur une première fois, il n'aurait pas été à cet endroit-là. Mais même au milieu de l'épreuve, le Seigneur l'avertit encore. Et souvent, nous sommes tellement aveuglés que nous n'entendons pas lorsque le Seigneur nous parle. Peut-être encore une ultime fois qu'il nous parle. Il peut nous parler par un verset de la parole, par un feuillet de calendrier, par un verset qui nous vient à l'esprit, par une strophe de cantique. Il nous prévient encore, attention, Mais voilà, Pierre n'a pas fait attention, et donc le coq a chanté une deuxième fois, et c'est alors, en y pensant, il pleura.
Par rapport à ce que disait Marc tout à l'heure, cette conversation de Jean 13 entre le Seigneur et son disciple, je ne peux pas me suivre maintenant, nous avons une très belle image de cela. Déjà dans l'arche qui passe le Jourdain, qu'est-ce qui nous est dit? Vous tiendrez à 2000 coudées. 2000 coudées, ça veut dire un, vous n'en approcherez pas. Et là, nous avons déjà en germe ce qui se passe dans ce chemin où je vais passer. Tu me suivras plus tard, mais pas tout de suite. Aussi, une chose qu'on a dite, c'est la manière, et Marc l'a souligné aussi, dont Jean use de sa position pour introduire Pierre. Nous devons être extrêmement prudents, pousser quelqu'un dans une position qui n'est pas en rapport avec sa foi. Même dans un service. Entraîner quelqu'un dans un service pour lequel il n'est pas appelé, c'est sa responsabilité, mais c'est aussi la nôtre. En effet, la foi de Pierre n'était pas à la mesure de la position qu'il prenait en s'asseyant près du feu. Encore un verset de l'Ancien Testament, cette fois par rapport à le fait que Pierre suivait de loin. Je lis dans Deutéronome 25, verset 17, « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek en chemin. » Amalek nous parle justement de la chair. « Que t'a fait Amalek en chemin quand vous sortiez d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin ?»« Tomba en queue sur toi, sur tous les faibles qui se traînaient après toi. » Lorsque tu étais las et harassé et ne craignais pas Dieu. Là, nous avons déjà une image. Amalek a fait main basse sur qui? Ceux qui se tenaient devant, ceux qui étaient mus par l'espérance qui était devant eux. Non, c'est ceux qui se traînent, ceux qui sont derrière, et Pierre suivait de loin. Comme ça nous a été dit, Abiathar, près de moi tu seras bien gardé. Dites les enfants, si vous êtes loin de quelqu'un, il marche 15 mètres devant vous. Il commence à vous parler. Ben, vous ne pourrez pas l'entendre. Vous ne pourrez pas l'entendre. Cette communion est distendue. Et puis, il y a autre chose qui peut se passer quand on suit quelqu'un de loin. C'est qu'il y a des choses qui peuvent se mettre entre. Il y a des choses qui peuvent se mettre entre. C'est pour ça notre seule sécurité, c'est de nous tenir tout près du Seigneur. Tout près du Seigneur. Quand on est tout près, alors on entend très bien ce que nous dit quelqu'un. Il n'y a plus rien qui peut se mettre entre lui et nous. Et puis aussi, un exemple de l'Ancien Testament, et je m'arrête. Par rapport à ce côté couleur muraille dont on nous a parlé, qui était ce que Pierre cherchait à faire, il y a un champion de couleur muraille qu'on trouve dans l'Ancien Testament qui s'appelle Josaphat. Moi, je suis comme toi. À qui dit-il ça? Au roi Acab, d'un impie. Moi, je suis comme toi. Et c'est un verset qui m'a souvent labouré. Non, nous ne sommes pas comme ces gens-là. Non, nous ne sommes pas comme ces huissiers qui sont ceux, sans aucun doute, Jean nous le dit, qui est-ce qui est venu chercher le Seigneur au jardin de Gethsémané dans Jean? Les huissiers. Donc il s'est assis avec ceux-là même qui se reposaient après avoir été chercher le Seigneur Jésus et l'avoir arrêté. C'est là qu'il est. Moi, je suis comme toi.
Il y a aussi trois étapes dans son reniement. Voilà la première fois qu'il se dit et dans le verset 69, une servante vient lui disant « Et toi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu dis. » Parfois, on fait comme si on ne comprend pas. « Je ne sais ce que tu dis. » « Oh, j'en ai rien à faire. » Alors, c'est la première étape. On fait l'ignorant. La deuxième étape, il est sorti dans le vestibule et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci aussi était avec Jésus le Nazaréen. » Il le nia de nouveau avec serment. Cette fois-ci, nia vraiment avec serment. Il dit, voilà, non, avec un serment, donc vraiment, il dit, je dis la vérité que je ne le connais pas. Ouf, ça va déjà encore plus loin. Et la troisième fois, on l'a dit, il s'est juré lui-même. Alors, il s'est mis à faire des imprécations et jurer. On a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Il s'est même mis le jugement sur lui-même. On voit combien ça peut aller loin. On s'enfonce de plus en plus dans le péché. Une fois on a commencé à aller dans un mauvais chemin, combien vite on est vraiment dedans et on se porte le jugement sur nous-mêmes.
Il y a un détail qui est très touchant pour nos cœurs, qu'on ne trouve pas dans Matthieu, dans notre lecture, mais qu'on trouve dans Luc. C'est ce qu'on trouve dans Luc 22, au verset 60. Pierre dit « Ô homme, je ne sais ce que tu dis. » Et à l'instant, comme il parlait encore, le coq chanta et le Seigneur se tournant. Regarde à Pierre. Le Seigneur est quand même interrogé. Le Seigneur sait que tous ceux qui sont autour de lui cherchent leur vie, sa vie. Et pourtant, il y a quelque chose qui va le faire complètement se distraire de ses accusateurs. C'est Pierre qui vient le nier. Le Seigneur se tourne. Les circonstances du Seigneur, terribles qu'elles soient, n'ont pas empêché de se tourner et de regarder Pierre qui vient de le renier. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce regard? Sans doute aucun reproche, mais ce regard a labouré Pierre. Sans doute beaucoup de tristesse dans ce regard. La parole ne nous le dit pas, mais Pierre a été transpercé. Bien-aimés, nos chutes n'arrivent pas comme un orage n'arrive pas non plus dans un ciel bleu. Nous avons vu toutes les étapes, on s'éloigne du Seigneur, on fait un peu avec le monde, on est trouble dans son témoignage. Et puis la chute est là. Mais nous pouvons aussi reconnaître les soins du Seigneur à notre égard, comme Pierre a pu les éprouver. Nous avons besoin aussi à ce moment-là du regard du Seigneur. Regard plein de compassion. Regard de grâce. De tristesse certainement aussi. C'est de cela dont nous avons besoin. Si quelqu'un ici est sens bien que ça ne va pas avec le Seigneur, tu as besoin de croiser son regard. Tu as besoin de réaliser toute la grâce qui est dans son cœur, la grâce qui a été pour un brigand, qui a été pour un Pierre, qui a renié d'une manière si explicite le Seigneur. Tu as besoin de ce regard-là. Peut-être que ce regard a été aussi ce qui a empêché la foi de Pierre de défaillir. Aucun mépris dans ce regard de la compassion. Que le Seigneur nous donne de revenir à lui et en effet de croiser son regard.
C'est si touchant de voir le Seigneur qui se tourne. Il est en train d'être accusé. On se moque de lui. Son disciple, il aime, le renie. Le Seigneur se tourne. Il a entendu le coq chanter aussi. Il avait averti Pierre. Mais là, tournant, il regarde Pierre. Ce regard qu'il avait touché en Jean 1, quand le Seigneur le regarde, il lui dit, tu seras appelé Pierre et Simon, mais c'était l'appel du Seigneur au début, quand il lui a changé le nom. Là aussi, le Seigneur l'a regardé. Il a revu ce regard-là. Et là, Pierre, Seigneur, regarde Pierre. Quel regard transperçant, mais sûrement aussi peut-être attristé profondément, mais à cela, à ce regard, Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur. Oui, cette parole qu'il lui avait dit, qui la même nuit, n'est-ce pas, quelques heures auparavant, avant que le coq chante, me reniera trois fois. On verra cet après-midi la restauration de Pierre. Mais déjà, on peut dire que c'est la première étape de la restauration. Il sort dehors. Il pleure amèrement. Oui, le regard du Seigneur a transpercé Pierre. Le regard du Seigneur l'a amené à reconnaître, à pleurer. Que nous puissions aussi voir le Seigneur. Il veut nous regarder les uns les autres, chacun de nous. Il veut toucher nos cœurs, nos consciences, nous amener à ses pieds. Comme Pierre, parce que son désir, c'est de nous relever, de nous faire du bien.
Et si le Seigneur s'est tourné vers Pierre à ce moment-là, sans doute que voilà Pierre, au moment où il réalise l'horreur de son péché, il regarde vers le Seigneur. C'est ce que nous avons à faire aussi lorsque nous réalisons que nous avons péché. On aurait une tendance à nous éloigner toujours plus du Seigneur. Regardons au Seigneur. C'est un Seigneur plein de grâce, plein de miséricorde. Oui, combien ce regard est important. Et j'aimerais lire un passage dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10. Marc 10, au verset 17. Et comme il sortait sur la route, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda « Bon maître, que ferai-je afin que j'hérite de la vie éternelle ?» Et au verset 21, « Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. » Il n'a pas capté le regard d'amour du Seigneur. N'est-ce pas le cas pour nous aussi,
Nous ne voyons pas le regard du Seigneur qui s'adresse à nous, comme on l'a dit, par un verset, par notre conscience peut-être. Le Seigneur nous parle. Il nous regarde avec amour, avec compassion. Mais souvent, nous ne distinguons pas ce regard. Et pourtant, combien ce regard est plein d'amour.
Il y a une chose que on remarque dans ce regard du Seigneur Jésus, qui produit un pleur amer chez Pierre. Il y a la reconnaissance que, on l'a rappelé plusieurs fois, ce cœur qui bouillait de Pierre, rien qui peut sortir de bon de son cœur. C'est un cœur aimant, d'accord, tout ce qu'on veut, mais il faut l'écraser. Et le regard du Seigneur crase ses meilleurs vœux, ses meilleurs desseins, ses meilleures volontés de Pierre. Quelques versets auparavant, quelques jours avant, le Seigneur avait averti aussi les disciples tous. En Matthieu 15, il a pu dire, juste je prends une expression de ce passage, Matthieu 15, verset 19, le début, « Car du cœur viennent les mauvaises pensées » et la suite. Du cœur viennent les mauvaises pensées. Donc, tout ce que Pierre pouvait ou désirait faire pour le Seigneur ne valait rien. Ce qui vaut, c'est ce que le Seigneur allait accomplir quelques instants plus tard pour Pierre. On a rappelé ce verset de Colossiens, mais d'abord, j'aimerais... On va rappeler, on va lire juste le début de ce Colossiens 3. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Si Pierre a pu recevoir ce regard du Seigneur, il faut se rappeler que tous les disciples étaient dans la même condition que Pierre. On l'a lu dans le premier passage que nous avons lu aujourd'hui, verset 35 de Matthieu 26, à la fin, et tous les disciples dirent la même chose. Et aussi, au verset 56, à la fin, « Alors tous les disciples le laissèrent et s'enfuirent. » Ce n'est pas en pointant du doigt Pierre ou en pointant des doigts les disciples qu'on va nous s'en tirer. Il faut se rappeler que notre cœur ne sert à rien. Ce qui vaut, c'est ce qu'on a lu en Colossiens 3, ce qui est dans le cœur du Seigneur. Et dans le cœur du Seigneur, nous étions tous, et il allait donner son sang, sa vie, ce qui faisait justement que nous puissions, nous, aujourd'hui, avoir la vie. Pour ça, pour être de ceux qui peuvent suivre le Seigneur comme il se doit, nous devons d'abord avoir conscience de notre néant. Ça, c'est pleurer amèrement. À pleurer amèrement sur notre condition. Sans cela, nous ne pouvons pas être restaurés. On vient de le dire, c'est le début de la restauration. Oui, mais d'abord, la conscience que notre cœur, même s'il est super bouillant pour le Seigneur et qu'on veut faire tous les biens du monde, il ne sert à rien. L'œuvre, c'est celle du Seigneur, non pas la nôtre.
Le Seigneur n'a pas honte de nous appeler ses frères. Le Seigneur nous aide à ne pas avoir honte de lui. Et on pourrait chanter le cantique 140.
140. Thank you.